Peuple de l'UQAM, on dirait que le cinéma Quartier Latin a créé une promo juste pour vous. Vous vous souvenez du tarif étudiant à 8,99? Ben maintenant, c'est valide tous les jours. Tant qu'à procrastiner cette session, faites-le sur grand écran. À l'affiche en février et mars, Lego Batman, le film, Logan, ça sent la coupe et La Belle et la Bête. 8,99, 7 jours sur 7 avec sa carte étudiante. Jusqu'au 31 mai seulement, à la billetterie du cinéma Cinéplex Quartier Latin. Cinéplex, voyez plus grand.
De bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bienvenue à tous nos auditeurs, vous écoutez la Photomédia sur les ondes de choc.ca. Ce soir, nous serons en compagnie de Étienne Tardy-Paradis, Ryan Roumiguer ainsi que Catherine Boucher. Bonsoir à toutes. Va simplement falloir ouvrir vos micros et me dire bonsoir.
Bonsoir.
Bon, ça fonctionne, parfait. Donc, Ryan Roumiguer ainsi que Catherine Boucher et Étienne Tardy-Paradis sont des nouvelles recrues ce soir. On va parler de toutes sortes de sujets. On va parler des médias d'extrême droite, des médias d'extrême gauche et des médias d'extrême centre. Donc, pendant que je me prépare un petit peu à la régie, il y a juste un petit problème là de notre côté. Donc, on va y aller tout de suite avec la chronique de Ryan. Ryan, j'espère que tu es prête.
Toujours.
Donc, Ryan, tu vas nous parler de la alt-right au Québec. Est-ce que ça existe chez nous, la alt-right?
Alors, ben oui, apparemment. En fait, je sais pas si vous êtes au courant un peu de ce que c'est la alt-right. Je vais faire un petit récapitulatif assez rapide. Donc, c'est un mouvement... Bon, en général, quand on parle de la alt-right, on fait référence à des mouvements de pensée d'extrême droite. Donc, on pense à la xénophobie, on pense à l'islamophobie et à l'homophobie. Et donc, en fait, on pense aussi que l'alt-right, ce sont des gens qui militent pour une suprématie blanche. Mais ici, au Québec, j'ai plus l'impression que le mouvement, il se concentre vraiment sur le côté islamophobe et xénophobe. Parce que vraiment, la plupart des articles que j'ai lus sont vraiment axés sur ça, sur l'immigration et sur la peur des mouvements islamiques, comme ça. Donc, en fait, on le sait tous, dans le monde de l'information, les journalistes ont souvent une certaine pression dans le sens où ils sont en permanence en compétition pour savoir qui va publier la chronique. Ça peut mener à plusieurs choses comme un manque d'objectivité ou alors des mauvaises informations. Mais ce soir, je voudrais aborder plus le sens au niveau de la contextualisation, en fait. On va se pencher sur les alt-right, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même s'ils ne sont pas encore vraiment présents sur la scène politique, les mouvements alt-right s'implantent petit à petit au Québec, donc follower par follower. On retrouve en général ces mouvements sous la forme de groupes, parfois des groupes secrets sur Facebook comme La Meute, ou encore sur leur site internet. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que certains sites deviennent carrément des médias d'information, en fait. On y trouve des articles qui ressemblent vraiment à des écrits journalistiques, sauf que, ben, bien sûr, ils abordent les faits sous leur angle, enfin, sous leur perception, qu'ils ont de la réalité par rapport à leur idéologie. Voilà, donc, pour ce que j'ai vu, les textes prennent vraiment, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la forme d'article. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de source tangible. On ne peut pas vraiment vérifier ce qui a été dit, en fait.
C'est ça. Ces articles-là sont écrits un peu comme des vrais articles de journaux.
Exact.
Mais souvent avec un titre très accrocheur, puis les informations seront incomplètes, mal contextualisées.
Ouais.
C'est un peu ça que tu as observé, dans le fond. Ce n'est pas des sources d'informations fiables.
C'est ça. Et en plus, par rapport à ce que tu as dit sur les titres, la nuance que je voudrais apporter, c'est que, OK, les titres sont accrocheurs. D'ailleurs, j'en ai repris quelques-uns. Donc, on a trouvé « Le tsunami migratoire aura raison de Vancouver » ou encore « Jean Coutu, du travail pour les étrangers et le chômage pour les Québécois ». Mais en même temps, je veux dire, dans les médias censés être objectifs, le titre est aussi accrocheur parce que les gens veulent qu'on le lise. Donc, je pense que c'est un peu normal que ce soit accrocheur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine.
Oui, en fait, je crois que tout bon média se doit d'être un peu sensationnaliste dans l'ère à laquelle on vit si on veut avoir un minimum de lectorat. Par contre, à quel prix, à quel point ça peut influencer des gens, un lecteur qui serait peut-être un peu moins averti puis qui voit des titres comme tu nous as nommés, je crois que ça peut en fait engendrer encore plus de haine ou de mouvements auxquels on pourrait plus facilement s'opposer.
Ouais. Ben en fait, moi, je veux attirer aussi l'attention sur un cas que je trouve particulièrement intéressant. Ça s'appelle pointdebascule.ca, en fait. Donc, ce site se définit, je cite, comme étant un site indépendant et non partisan, décrivant les méthodes et les moyens qu'utilisent les organisations et les leaders islamistes pour appliquer leur programme au Canada. Donc, je trouve qu'il est intéressant dans le sens où, même si on sent qu'il y a une idéologie anti-immigration derrière ce qu'ils proposent, que je trouve appréciable chez eux, c'est qu'ils sélectionnent des articles tangibles, des articles qui sont sortis par exemple dans le Journal de Montréal ou d'autres, tu vois, des écrits aussi, des textes scientifiques. C'est ça que je trouvais intéressant. Après, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas de la diffusion de la pensée alt-right au Québec? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense qu'on doit davantage s'inquiéter sur le fait que les journalistes, en fait, ils font pas vraiment la liaison entre, par exemple, des attaques, des actes de vandalisme, des choses comme ça qui se sont passées, et l'émergence du mouvement alt-right, en fait. C'est ça que je trouve un peu dommage. Comme le rappelle, en fait, Mariam Assaoui dans son article « Islamophobie ambiante au Québec, amalgame et confusion », publié dans le Huffington Post Québec. Depuis 2013, on a pu assister à plusieurs actes de vandalisme dans des mosquées, que ce soit au Québec même ou à Montréal. Cependant, j'ai jeté un coup d'œil, en fait, à la couverture médiatique de l'attentat à la mosquée, faite par Radio-Canada. Et j'ai vu des articles, la plupart des articles, en fait, ils sont axés sur l'émotion, sur le mouvement de solidarité qu'il y a eu entre les Québécois, la réponse des gouvernements. Et j'ai vu qu'un seul article, en fait, qui traitait des crimes haineux et une seule capsule vidéo de très courte, de 4 minutes, qui s'intéressait au poids des mots, comme dans les radios, la radio X et Radio Poubelle. Voilà, donc moi je trouve ça assez dommage que je trouve que en fait les journalistes ont un peu failli à leur mission sur ce côté-là parce qu'ils n'ont pas mis en lien, je trouve, entre la montée de alt-right au Québec, puisque quand même ça commence à émerger, et ces petits actes de vandalisme.
Oui, c'est ça, c'est de la radicalisation, radicalisation d'extrême droite, la radicalisation raciste, là.
C'est ça. Et bah, d'ailleurs, je pense que d'avoir plus d'articles qui font le lien aurait pu éviter le genre de bourde de Pierre Bruno, en fait, sur TVA, qui parlait de terrorisme inversé. Il s'étonnait que ça venait de nous, enfin, ça venait des Blancs. Voilà.
C'est donc, ça, en fait, puis sa bourde, c'était pas méchamment qu'il l'a fait, mais c'était vraiment juste un manque de connaissance du sujet, de sensibilité sur ces questions-là.
C'est ça même.
Puis, est-ce que tu crois pas que, en faisant des liens entre l'émergence des médias alt-right puis des attaques comme il y a eu à la mosquée de Québec, est-ce qu'on justifierait pas un peu justement la montée de ces mouvements-là en disant, par exemple, bon, ben, il y a eu un attentat à la mosquée, donc c'est normal qu'il y ait une montée de positions extrémistes suite à ça, puis de normaliser ce discours-là haineux dans l'espace public?
Bah, après, moi, je trouve que c'est une question assez délicate de laisser plus de place, justement, au mouvement alt-right dans les médias plus conventionnels, parce que, justement, ça nous met un dilemme. Si on parle plus d'eux, est-ce qu'il n'y aura pas plus de monde qui vont adhérer ou qui vont suivre? C'est ça que je trouve assez compliqué comme réponse, comme question.
Oui, le travail revient aux journalistes. Les journalistes doivent évidemment en parler parce qu'on peut pas se fermer les yeux sur une réalité, mais ils doivent aussi, c'est important qu'ils en fassent la critique.
Oui, c'est sûr.
Donc qu'ils aillent vraiment au fond des choses, au fond des sujets, puis qu'ils relèvent les aberrations de là où elles se trouvent.
Oui, mais après, je pense que quand on livre une information, même si on essaye d'être le plus objectif possible, si la personne veut, son appropriation, elle lui est propre, tu vois. Même si l'information est la plus objective possible, avec son passé, tout ce qu'elle a vu dans sa vie, elle peut l'interpréter comme elle veut, en fait. Donc c'est ça qui est compliqué pour nous, en tout cas pour les journalistes.
Oui, dans le fond, là, ça déplace le débat à savoir à quel point on peut être neutre en tant que média, puis à quel point la subjectivité s'efface complètement, ou est-ce que c'est possible de l'effacer, mais ça, c'est un tout autre débat.
voilà, donc après, on peut reprocher aux médias d'être objectif, de ne pas, enfin, les médias objectifs, de ne pas assez relayer cette information, justement, concernant l'émergence des mouvements alt-right au Québec. Mais comme j'ai dit, c'est assez compliqué de savoir à quel point il faut relayer le mouvement. Et surtout, si on parle d'extrême droite, il faut aussi parler d'extrême gauche. Il faut donner la voix un peu à tout le monde. Donc, voilà. Après, je pense qu'aussi la contextualisation, comme je disais il y a pas longtemps, en matière d'information, c'est un élément vraiment important pour comprendre un événement et ses retombées. Et ce, que ce soit en information internationale, nationale ou bien locale, le fait est que de nos jours, l'instantané a pris une place vraiment importante. Et du coup, la contextualisation est beaucoup plus difficile. Après, est-ce que c'est de la faute à la société ou est-ce que c'est de la faute aux médias?
Responsabilité partagée. T'en penses quoi, ça. Catherine?
Je me questionne plutôt à savoir, tu sais, c'est sûr que c'est facile de rejeter la faute sur les médias ou la société, mais dans le fond, est-ce qu'il y aurait pas un travail aussi dans la formation même des journalistes, à savoir de perfectionner leur technique pour être capable de présenter deux idées qui s'opposent complètement et qui se détestent? Mais de présenter ça de manière justement neutre, puis de réconcilier les deux points de vue pour que le spectateur, le lecteur, le téléspectateur se fasse une idée devant des faits qui sont honnêtes puis qui sont le plus représentatifs aussi de la situation.
Oui, c'est aussi que le monde des médias en ce moment vit une véritable crise, là.
Oui.
Il y a beaucoup de remises en question. Mais je veux pas qu'on anticipe trop sur ta chronique de plus tard, Catherine. Mais merci beaucoup, Ryan, pour ta chronique.
Merci.
Donc, plus tôt aujourd'hui, on s'est entretenu avec Étienne Tardy-Paradis, qui devait nous quitter plus tôt, mais il a fait sa chronique, donc je vous laisse entendre ce qu'il avait à vous dire. Bon, je vous laisserai pas entendre ce qu'il avait à vous dire, petit pépin. En fait, finalement, on va peut-être se diriger vers une chanson, histoire de régler nos petits problèmes techniques. Ça va être « Someone Else » de l'artiste CRI.
bonsoir.
Vous écoutiez la chanson « Someone Else » de CRI. Vous écoutez toujours la vôtre aux médias sur les ondes de choc.ca. On a réglé nos petits problèmes techniques, donc on va aller écouter la chronique d'Étienne Tardy-Paradis. On l'écoute à l'instant. Donc ce soir, Étienne Tardy-Paradis, un nouveau à l'émission, bonsoir. Donc toi, aujourd'hui, tu vas nous parler des médias d'extrême-gauche.
Exactement. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à l'équipe de la Faute aux médias de me donner la chance de m'exprimer pour une première fois à la radio universitaire de l'UQAM. Merci également aux étudiants et étudiantes de l'UQAM de permettre à Choc d'exister grâce à leur cotisation pour ceux et celles qui n'ont pas demandé le remboursement de 2,81 à la radio étudiante. Merci aussi à la direction de l'UQAM d'investir dans la culture radiophonique universitaire avec un investissement d'un peu plus de 200 000 $ par année. Et cela en sachant que parallèlement, la direction de l'université investit l'humble somme de 6,8 millions $ en sécurité par année.
Ouh, ça commence fort, un discours engagé, on aime ça.
Toujours, ça va continuer dans la même idée. Car il est vrai que l'université du peuple doit se protéger des actions dangereuses d'anarchistes et d'extrémistes de gauche qui sillonnent ses couloirs jour et nuit.
Attention, il pourrait y en avoir parmi nous.
D'ailleurs, le sujet de ma chronique d'aujourd'hui porte sur les médias d'extrême-gauche. Mais qu'est-ce qu'un média d'extrême-gauche, allez-vous me dire? Eh bien, il s'agit d'une institution qui permet la diffusion large et collective d'informations ou d'opinions qui rejettent la démocratie libérale et militent pour l'abolition du capitalisme. Les doctrines à la base de ces mouvements sont souvent issues d'interprétations radicales du marxisme, du communisme ou encore à travers l'idéologie anarchiste. Concrètement, ces médias prennent forme à la radio, à la télévision, la presse, les livres ou encore sous forme de publicité. Le but recherché est de communiquer vers un grand nombre de personnes afin d'enclencher une révolution qui permettra de créer une société égalitaire.
Mais est-ce que tu en connais beaucoup, toi, des médias qui répondent à cette description-là, des médias anarchistes, d'extrême-gauche, qui visent la destruction du capitalisme?
En fait, au Québec, très peu, j'en connais très peu. Il faut que je fasse des recherches plus approfondies. Mais il est tout à fait normal que ces derniers ne soient pas extrêmement répandus dans la société en général et absents des médias de masse institutionnalisés, car eux-mêmes refusent souvent de s'intégrer au fonctionnement de la démocratie libérale. Maintenant, j'aimerais vous proposer quelques exemples de médias d'extrême-gauche. Il en existe des centaines à travers la planète et chacun d'entre eux possède sa propre réalité géopolitique. C'est pourquoi j'ai décidé de traiter deux médias d'extrême gauche proches de nous, soit Submédia et Révolution Permanente.
Moi, j'ai jamais entendu parler de ces deux médias-là. Est-ce que tu les connaissais avant de faire ta recherche?
Bien honnêtement, je connaissais Submédia, mais pas Révolution Permanente. Submédia, d'ailleurs, qui est très, très présent à l'UQAM, mais vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines secondes. Tout d'abord, Submédia est un média d'information anarchiste canadien créé en 1994.
Ouh, l'année de ma naissance, très grand cru.
Donc, êtes-vous un jeune anarchiste en devenir ou...
Je ne peux pas me prononcer là-dessus, malheureusement.
Excellent. À la fin de l'émission, on va le savoir. Celui-ci produit principalement des synthèses vidéo montrant des extraits de la résistance populaire face aux excès du capitalisme, et ce, à travers le monde entier. Le but recherché est d'inciter leurs auditeurs, à des actions concrètes lors de manifestations ou encore par l'envoi de vidéos montrant des actions anticapitalistes. En ce qui concerne Révolution Permanente, il s'agit d'un site d'information portant sur les principaux événements de la politique nationale et internationale. Contrairement aux médias traditionnels ou aux grands groupes de presse, Révolution Permanente assume pleinement son parti pris.
Oui, ça se lit même dans son nom.
Effectivement, bonne remarque. Avec mes 12 heures de recherche, je n'avais pas remarqué. Merci, Emilien.
Ça fait plaisir.
Le but du média est toujours d'informer le lecteur francophone sur l'actualité politique et la lutte des classes à l'échelle internationale, mais aussi de permettre à ceux qui n'ont jamais entendu dans les médias de masse, de faire entendre leur voix.
Un peu comme nous.
Exactement, avec nos 13 auditeurs. Oh pardon, non, 24, ça vient de monter à l'instant même.
Ah ben oui, parce que tu fais une chronique justement.
Merci. Donc ces deux médias partagent plusieurs caractéristiques en commun, soit un désir d'offrir une alternative aux médias de masse, de briser le monopole de l'idéologie capitaliste et de proposer une révolution internationale. À la lumière des informations et des exemples que je viens d'apporter, est-ce que vous pensez que les médias d'extrême gauche ont un apport positif ou négatif dans l'univers médiatique au Québec et d'une manière plus large dans la société québécoise? Je pose la question à tous.
Ben, dans le fond, moi, je pense que
que la présence de médias comme ça plus radicaux est importante parce que ça favorise la pluralité de voix. Maintenant, moi, je pense que les médias de gauche au Québec, il y en a très peu. On parle de l'extrême gauche, mais même de la gauche, c'est très difficile pour eux de percer. On pourrait dire que Le Devoir, par exemple, est un quotidien plus à gauche, mais même là, jusqu'à quel point? Puis il y a quelques petits médias indépendants, par exemple Ricochet, qui donnent une voix à la gauche au Québec, mais je pense que c'est important de favoriser ces médias-là plus alternatifs parce que juste le fait de ne pas s'inscrire dans l'idéologie dominante, ça leur enlève une très grande tribune. Donc, on les targue peut-être de gauche ou d'extrême-gauche alors que c'est simplement le fait qu'ils ne s'inscrivent pas dans l'idéologie capitaliste néolibérale dominante qui fait en sorte qu'on en parle moins, qu'ils ne percent pas davantage les marchés. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Ryan, Catherine?
Moi, je crois que, oui, ça prend une place aux positions un peu plus extrémistes parce que, ne serait-ce que pour respecter la liberté d'expression, tout le monde devrait avoir le droit de parler et de donner ses opinions aussi extrêmes qu'elles soient. Par contre, il faut pas verser non plus dans la caricature puis donner la parole à des médias qui sont trop extrémistes, qui vont favoriser justement l'idée de rire de ces gens-là parce que ça peut en devenir pathétique.
Oui, il faut que ça demeure dans une logique de respect, là, que ce soit des médias d'extrême droite ou d'extrême gauche. Leur existence ne devrait pas être remise en question, mais leur message, c'est normal quand ça va dans les extrêmes, que ça ne soit pas tant relayé. Surtout si c'est pas neutre comme information, ou du moins si c'est tellement biaisé que l'information perd de sa qualité. Parce qu'on s'entend qu'il y a des informations qui méritent d'être diffusées, même s'il y a un certain biais idéologique. Des fois, il faut verser un peu dans l'opinion, dans la critique. Mais les extrêmes, c'est toujours un peu plus dangereux.
Par contre, j'ai remarqué que dans les médias en général au Québec, la gauche est beaucoup moins présente du côté de l'extrême gauche que de l'extrême droite.
Oui.
Ça, j'imagine que vous allez en parler plus tard dans l'émission. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mes recherches, j'ai trouvé des informations sur la meute, les Fils d'Odin à Québec, aussi le groupe de musique Violence Légitime qui se revendique, du moins qui fait des actions dans le sens de l'extrême droite. Alors, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'informations sur ces médias-là d'extrême droite, mais moins sur la gauche. Aussi, la question est-ce que la gauche, l'extrême gauche, est moins présente sur les plateformes médiatiques en général?
Peut-être qu'ils ont des modus operandi un peu différents. Ben, merci beaucoup. C'était Étienne Tardy-Paradis.
Avec plaisir.
Première chronique, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement, mais j'espère que tu vas être des nôtres très prochainement.
Oui, absolument. La semaine prochaine, à Choc, je vous retourne.
C'est parfait. Merci beaucoup, Étienne.
Donc, c'était Étienne Tardy-Paradis avec qui on discutait plus tôt aujourd'hui. Là, je vois le temps aller, puis je vois qu'on va manquer de temps, mais on va se dépêcher un petit peu parce qu'on veut écouter Catherine Boucher nous parler des médias d'extrême-centre.
Oui, donc je vais essayer de faire ça vite étant donné le peu de temps qui nous reste. Laissez-moi commencer par vous ramener il y a environ 3 ans, alors que la BBC annonçait qu'elle n'allait plus donner la parole aux climato-sceptiques lors de ses émissions à caractère un peu plus scientifique. À ce sujet-là, Yannick Villedieu, qui est animateur à l'émission Les Années Lumière, qui est une émission diffusée à Radio-Canada, qui a également choisi de ne plus diffuser le point de vue climato-sceptique, a expliqué que les arguments de ces derniers sur le réchauffement climatique et sa cause anthropique ne sont pas vérifiés et vérifiables scientifiquement. Donc, ce qu'on a fait dans ce média-là, c'est que sans rabaisser le point de vue climato-sceptique, on a simplement décidé de ne plus en parler.
Parce qu'on le considérait pas valide.
En effet. Tout simplement parce qu'il y avait selon eux, aucune science qui pouvait prouver le réchauffement climatique.
Oui.
Donc, M. Villedieu avait précisé, par contre, il faut le noter, qu'il était ouvert au débat sur l'importance du phénomène et sur ses conséquences, mais pas sur son existence. Donc, on avait reproché à BBC et à Radio-Canada de ne pas respecter les normes et les pratiques journalistiques, en plus, non pas de faire de la science, mais de la politique. Il faut noter d'ailleurs au passage que dans plusieurs cas, la politique et la science se rejoignent au sens où les données scientifiques servent souvent à appuyer des politiques. Le problème en faisant ça, c'est que
en refusant d'aborder un point de vue climato-sceptique, le réseau prend, dans le fond, une position très ferme par rapport à ce qu'il qualifie de la fausse science. En fait, en faisant ça, on décide simplement de discréditer un point de vue. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Maintenant, ça va être aux téléspectateurs et aux auditeurs de décider s'ils trouvent qu'il y a un manque d'impartialité.
Mais quand vient le temps de parler de sujets plus sociaux, plus politiques, qui n'ont pas d'implication scientifique, est-ce que ça veut dire qu'il est impossible pour un média d'être complètement neutre?
Ben, en fait, je pense que le cas des climato-sceptiques à BBC Radio-Canada, c'est l'exemple d'un débat qui pourrait aller plus loin, effectivement, même dans un cadre politique. Donc, on peut se poser la question à savoir si, pendant les reportages, on devrait donner ou non la parole à des groupes extrémistes sur des questions d'ordre plus politique, ce dont on parlait précédemment, entre autres avec Ryan, sur la question de l'immigration, qui est essentiellement politique, rappelons-le. Ou lorsque vient le temps de traiter d'un sujet, est-ce qu'on devrait consacrer le même temps d'antenne à des groupes d'extrême droite anti-immigration au même titre qu'on permet à des organismes communautaires de s'exprimer? La question se pose et le désir d'impartialité, je pense qu'il répondrait par l'affirmative. Donc, si on veut vraiment être impartiaux, il faut vraiment donner la parole à tout le monde. Mais le problème avec les positions extrémistes, selon moi, de gauche comme de droite, c'est qu'elles font pas dans la nuance. Un élément qui est super important dans n'importe quel reportage. Donc, chaque opinion peut être donnée. Mais je pense qu'elle doit être nuancée par son opposé. Par contre, si ces opposés-là sont trop extrêmes, mais les nuances risquent de se réduire à seulement des attaques un peu basses contre le clan adverse, et à ce moment-là, on n'aura pas un débat sain. Donc, présenter des opinions extrêmes, je ne pense pas que ça participe à l'objectivité d'un message. D'ailleurs, on se dit qu'une chaîne comme BBC ou Radio-Canada doit être impartiale et présenter les plus larges spectres de points de vue. Si un média présente juste un côté de la médaille, il fait preuve de subjectivité, un mot d'ailleurs que les journalistes détestent, tout comme les scientifiques. Par contre, en choisissant de présenter les deux positions, la BBC ou tout autre média crée déjà un biais. En se mettant au centre, en donnant le même poids à deux idées opposées lors de ses reportages, le média prend position, c'est une prise de position. Le désir de neutralité engendre de facto un biais. Donc, de toute façon, ça va être biaisé. Le fait de montrer qu'un côté de la médaille n'est pas plus ou moins nuisible que de montrer les deux.
Donc, rapidement, parce qu'il nous reste même pas 30 secondes, qu'est-ce que ça implique pour le public?
En fait, le public va devoir décider si il se range d'un côté ou de l'autre, parce que, dans le fond, les médias vont présenter des opinions de plus en plus polarisées, donc ça va présenter aussi le défi d'avoir accès à un média de plus en plus généraliste ou qui fait dans la plus grande éventail d'idéologies. Donc, ça va être au public de décider vers où il décidera d'aller et d'être essentiellement critique face à ces médias-là.
Ben, merci beaucoup.